Mesdames, Messieurs, je souhaite la bienvenue. Je suis heureux de voir que certains que vous manifestez un intérêt pour la petite plongée dans le passé très lointain que nous allons chercher à faire cette année. J'ai dit dans une présentation, je crois, sur le site internet du collège, que pour moi, les gâtas que l'on dit de Zoroastre, je ne me prononce pas d'emblée, c'est un peu comme si j'écrivais 20 ans après, hein, puisque c'était il y a 20 ans, en 91, que s'est achevée l'entreprise d'analyse des textes vieil avestique que j'ai menée avec Éric Pirard, et je crois que le temps est venu peut-être. Je n'aime jamais me relire immédiatement. Après 20 ans, ça va. Le moment est peut-être venu de faire le point, de chercher à voir ce qui est encore d'actualité dans cette analyse, ce qui ne l'est plus aussi, et tenter peut-être de répondre aux questions d'une autre manière. Alors, vous m'excuserez, ou vous me remercierez, je n'en sais rien, mais je vais répéter au début de ce cours des choses que j'ai déjà dites, parce que je crois que nous devons situer dans l'histoire de notre discipline le sujet que nous aborderons cette année, afin de voir comment la réflexion sur ce texte s'est constituée dans la recherche scientifique internationale. Je n'ose pas dire certainement que si j'avais ici un représentant, il y en a certainement de la communauté Parsi, que l'on a découvert le texte d'Egata, que l'on a découvert l'Avesta. C'est une vision européocentrique des choses. Le texte d'Egata, le texte de l'Avesta n'a jamais été perdu. Bien sûr, l'Occident l'a découvert. L'Occident l'a découvert, mais découverte ou bien rencontre, puisque ce texte existait depuis toujours, cela finalement c'est peu d'importance parce qu'il était impossible de mener une étude scientifique de ce texte avant que se soit constituée la grammaire comparée des langues indo-européennes. C'est l'outil qui nous a permis d'accéder de manière plus précise au sens du texte. Or, la découverte, la constitution de la grammaire comparée des langues indo-européennes s'est produite, comme vous le savez, de manière extrêmement progressive à partir du début du XIXe siècle. Il y a bien sûr des dates qui sont traditionnelles, mais elles valent ce qu'elles valent. Hein, 1816, le livre de Franz Bopp, sur le système verbal de différentes langues indo-européennes anciennes. Bien, donc, la réflexion scientifique commence avec la grammaire comparée. Pour aussi revenir aux origines, vous savez que l'origine de toute réflexion sur l'Avesta et sur sa religion est due à un auteur allemand qui s'appelle Martin Haug qui nous a permis de manière d'ailleurs décisive de situer le texte comme il doit l'être réellement à l'intérieur, Martin Haug, à l'intérieur du corpus avestique. Je ne l'ai pas mis dans la bibliographie parce que de toute façon ce livre est obsolète. Il l'est bien sûr, c'est le début de la science, mais c'est devenu une curiosité pour les chercheurs. Martin Haug a vécu de 1827 à 1876. Sa vision des Gata et de l'Avesta a été exprimée, s'est développée et s'est exprimée en 4 ans. En 1859-1860 paraissent en 2 volumes sa traduction des Gata, dans une série tout à fait érudite, puisque ce sont les cahiers de l'association orientaliste allemande, la Deutsche Morgenländische Gesellschaft de Leipzig. En 1861, un an plus tard, il fait une conférence de vulgarisation à l'adresse des Parsis de Bombay. Cette conférence a lieu à Pune, où, pour son public Parsi, il tire les conclusions de sa traduction des Gata. L'année suivante, enfin, 1862, paraît son livre en anglais, puisqu'il paraît à Bombay, Essays on the Sacred Language, Writings and Religion of the Parsis. C'est très intéressant d'analyser les titres des livres dans notre discipline. Comme vous allez le voir, ils disent beaucoup de choses en quelques mots. Ici, on voit que ce dont il va parler, c'est le langage qu'il dit sacré, c'est-à-dire le langage du livre Avesta, de l'Avestique. Writings, c'est le livre lui-même, les écrits, l'Avesta. Et la religion, c'est-à-dire ce qu'on appellera le zoroastrisme, d'après le nom du fondateur, ou mazdéisme, d'après le nom de la grande divinité de ce système religieux. Bon, alors, vous voyez, ce qui est au centre de la représentation de Hauke est ce qui va le rester pendant très longtemps. C'est une vision qui commence seulement à se dissiper. Hein, nous avons souvent ici mené ensemble une réflexion pour dissiper cette illusion. C'est la notion de livre sacré. C'est la notion de livre sacré. Il est clair que pour Hauke, l'Avesta, oh, c'est quelque chose d'équivalent, d'analogue à la Bible, au Coran. Peut-être, bon, c'est le livre sacré des Parsis. Vous lirez ça partout encore, hein, que l'Avesta est le livre sacré des Parsis. Vous le lirez même sous ma plume. Je ne le dirai plus jamais. Hein. Mais vous pouvez lire ça de manière très courante et au cours de notre revue des différentes tentatives pour élucider l'Avesta, je finirai par vous expliquer pourquoi nous l'avons abandonné. Mais attention, à la notion de livre sacré, Hauke a vu tout de suite, c'est à lui que nous le devons, un fait de première importance. Un fait de première importance. Il y a une différence chronologique entre deux parties de l'Avesta. L'Avesta est fait de deux parties, une partie ancienne et une partie plus récente. C'est la langue qui en témoigne. La partie ancienne, Hauke va l'appeler Gathique, parce que c'est la langue de cette partie du texte de l'Avesta que l'Avesta récent lui-même appelle Gatha, les chants. Les chants. Donc, le Gathique. L'aspect chronologique des choses va apparaître de manière beaucoup plus explicite dans la désignation de la langue de l'autre partie, puisque là, Avestique récent, va dire, Young Avestan, va dire Hauke, donc l'Avestique récent. Gathique ne comporte explicitement aucune nuance chronologique, Avestique récent, bien sûr, oui. Or, le nom de Zarathoustra, le nom de Zoroastre, ah, je ne l'ai pas écrit, mais vous savez, vous l'avez sur la bibliographie. Ce nom-là, eh bien, si c'est le nom du fondateur, ce nom-là apparaît dans la partie gathique. Il en résulte un fait de première importance que l'on peut définir tout de suite. Hein, c'est que l'Avesta n'est pas l'œuvre de Zoroastre. Ce n'est pas le livre de Zoroastre, comme on pouvait le penser au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Seuls les gathas peuvent lui être attribués. La chronologie s'oppose à ce qu'il soit l'auteur de l'ensemble du livre. Il est l'auteur de la partie ancienne. Alors, nous pouvons déjà, selon la vision de Hauke, nuancer un peu cette notion de livre sacré. L'Avesta n'est pas, l'ensemble de l'Avesta, dans la vision de Hauke, n'est pas un livre sacré. C'est un livre qui a été organisé autour d'un noyau sacré et qui est l'œuvre du fondateur. Et ce texte, ce sont les gathas. Alors, Hauke va répondre à toute une série de questions que l'on peut se poser dès lors que l'on a fait cette définition primaire. Il va se poser la question, naturellement, on ne cessera de le faire, elle n'est pas très importante pour ce qui nous concerne, je n'en parlerai pas beaucoup. Il faudra y faire quelques allusions. C'est où et quand? Où ce texte a-t-il été composé et quand? La réponse de Hauke, c'est en 1400 avant l'ère commune, 1400 avant l'ère commune en Bactriane. C'est une date ultra haute. Il faut la prendre de manière indicative. Elle est un peu exagérée, certainement. La Bactriane, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur parce que c'est fondé sur une observation textuelle qui, on le sait aujourd'hui, dépourvue de fondement. Mais malgré tout, il y a une part de vérité dans la localisation en Bactriane. Une part de vérité parce que certainement, nous le savons aujourd'hui aussi de manière assez précise, on ne peut pas préciser vraiment où dans les terres qui sont encore aujourd'hui iraniennes ou qui l'ont été, l'Avesta a été composée, mais très certainement dans les régions orientales de l'Iran. Donc, La question où et quand de Hauck n'est finalement ne trouve pas une mauvaise résolution en soi. Alors, comment faut-il envisager le texte d'Hegata ? À quel genre littéraire les Hegata appartiennent-elles ? Là, je suis incapable de vous livrer un mot, parce que Hauck fait une description assez floue du processus de composition des Hegata. Je dois vous l'exposer à peu près comme il la raconte. Eh bien, Zarathustra, nous dit-il, reproduit pour ses disciples des entretiens qu'il a eus avec son Dieu. Il reproduit des entretiens qu'il a eus avec son Dieu, mais ce sont ses disciples qui ont mis ces textes en forme. Et encore, certains de ces textes, certains chapitres gathiques, selon Hauck, ne sont pas authentiques. Ce sont l'œuvre pure et simple des disciples. Façon de faire la différence, écoutez bien, ça appartient à une sensibilité littéraire un peu surannée. Mais donc, on voit que Hauck ne donne pas une définition extrêmement rigide du caractère personnel du texte. La notion d'auteur est considérablement affaiblie dans cette représentation. Lorsqu'il fera un exposé sur la doctrine, il se montrera aussi très nuancé. Qu'est-ce qui caractérise la doctrine religieuse des Hegata, cette nouvelle doctrine prêchée par ce monsieur appelé Zarathustra ? Eh bien, trois choses selon Hauck. D'abord, le monothéisme. Les nuances à présent. Il y a bien sûr un dieu omniprésent, un seul dans les Hegata, c'est le dieu Ahura Mazda. Le dieu Ahura Mazda. Mazda est le nom à proprement parler. Ahura est un titre, titre divin dans la titulature. La grammaire comparée de Hauck n'est pas encore suffisamment au point pour qu'il puisse comprendre le nom de Mazda. Il donne une explication, mais elle est tirée par les cheveux et elle est visiblement fausse. Donc, il est inutile qu'on s'y arrête. Il n'est pas à même de pénétrer à l'intérieur des mécanismes de composition nominale qui ont pu produire un nom comme Mazda. Mais, indépendamment de ce Mazda, persiste, nous dit Hauck, dans le texte des Hegata, d'anciennes figures divines. Par exemple, le dieu Vayu. Le dieu Vayu est mentionné. C'est vrai, il y a quelque chose qui ressemble au nom de Vayu dans les Hegata. Nous ne le pensons plus aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est probablement une illusion de Hauck, mais elle est parfaitement compréhensible, c'est bien observé. Et à côté de ces anciennes figures divines, on en voit apparaître de nouvelles. Par exemple, le dieu Srausha. Là, c'est très bien vu parce que Srausha est une divinité dont nous avons parlé l'année dernière, je pense, et qui, effectivement, est présente dans les Hegata. Naturellement, lorsque l'on parle d'une doctrine monothéiste, ce sont des situations embarrassantes et gênantes. Or, en bon théologien qu'il l'était aussi, Hauck a choisi d'utiliser pour Srausha le titre d'archange. Hein? Bon. Alors, deuxième caractéristique de cette doctrine, elle est extrêmement frappante dans le contexte indo-européen, justement. Nous savons tous que l'Inde, d'une part, d'une certaine manière, la Grèce et Rome, d'autre part, d'une autre manière, ont des religions qui accordent une importance relativement faible à la vie après la mort. Hein, au destin futur de l'âme. Au contraire, les Hegata semblent obsédés par ce sort de l'âme, par les événements qui se produisent après la mort des individus, mais aussi qui se produiront à la fin des temps. C'est une chose qui embarrasse un peu Hauck, parce que l'apparition de l'eschatologie n'est pas extrêmement explicite dans les Hegata. La manière dont Hauck ici affirme l'importance de l'eschatologie montre que, clairement, il est embarrassé par le fait qu'il ne la trouve pas dans le texte. Il s'exprime de telle manière que cela se sent parfaitement. Quand on lit les Hegata, on comprend très bien. On comprend très bien ce sentiment. Il nous dira simplement, il n'y a pas de raison de douter. Il n'y a pas de raison de douter que l'eschatologie individuelle sort de l'âme individuelle, ou l'eschatologie cosmique, le sort du monde, occupe une place importante dans les gathas. Il n'y a pas de raison de douter. Alors, troisième caractéristique, la doctrine des gathas est anticléricale, c'est-à-dire qu'elle est dirigée en grande partie contre le clergé existant du temps de Zarathoustra. Et la raison même de cet anticléricalisme, c'est l'antiritualisme. C'est l'antiritualisme. Zarathoustra aurait donc favorisé une forme de religiosité qui donne le plus d'importance à une sorte de mystique intérieure qu'à un comportement ritualiste dont l'Inde, par exemple, n'est-ce pas, donne une image tellement grandiose. Par quoi se manifeste l'anti-ritualisme des gathas? Ici aussi, Hauck se comporte comme s'il ne trouvait pas le témoignage qui lui permet d'avancer ses faits. Il dit, le sacrifice sanglant, dit Hauck, perdure. Le sacrifice sanglant reste recommandé. Mais pas l'usage de la liqueur sacrée, probablement enivrante, tout au moins une sorte de drogue, le hauma, qui est la forme avestique du soma indien, qui est offert aux dieux, mais que les sacrifiants aussi consomment lors de la cérémonie. Le hauma est, lui, fermement condamné. Il se base là, pour cela sur deux strophes des gathas, dont nous aurons à reparler. Alors voilà, on m'a critiqué de le faire, mais je vais pourtant le faire. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. On m'a déjà reproché que je donnais dans mes explications une certaine importance, trop d'importance à certaines données biographiques des savants du passé. Mais je crois qu'il faut le dire parce que c'est la réalité. Enfin, nous avons des gathas, une lecture protestante. Et nous n'avons qu'elle, parce que la lecture qu'en donne Hauck, comme celle que va reprendre quelques années plus tard Bartholomé, n'est-ce pas, c'est la vision qu'ont des choses, des philologues luthériens allemands, qui appartiennent à un courant de pensée propre au protestantisme nordique de la fin du XIXe siècle, et qui est un protestantisme violemment anticlérical, pas anticatholicisme bien sûr, antiritualiste aussi, mais qui accorde aussi, du point de vue doctrinal, une importance considérable à l'eschatologie. L'Apocalypse devient un des textes fondamentaux de cette tendance du protestantisme de cette époque. Nous savons que Hauck lui-même est théologien luthérien, que le grand-père de Bartholomé était pasteur. Donc ce sont des gens imprégnés de cette tendance du protestantisme évangélique allemand du XIXe siècle. Mais toutes nos études, même si plus tard des gens d'autres appartenances confessionnelles vont se mêler de traduire les gathas, comme le français Meillet ou Jacques Duchesne-Guimin, ils se sont ralliés à cette vision. Donc là, effectivement, l'importance de l'appartenance confessionnelle se dilue. Hein. Mais la base fondamentale, c'est cette lecture protestante. Et elle a même été confiée aux Parsis eux-mêmes, n'est-ce pas, qui ont, sans savoir peut-être parfois, une vision protestante de leur texte de référence. C'est une chose que nous ne devons pas perdre de vue. C'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, j'ai plusieurs fois fait remarquer que la grammaire comparée de Hauck n'était pas une grammaire comparée encore tout à fait opératoire. La grammaire comparée sera opératoire aux alentours de 1870, lorsque les jeunes étudiants en philologie classique de l'université de Leipzig vont découvrir l'existence des lois phonétiques. C'est le mouvement dit des néo-grammairiens qui constate que les langues n'évoluent pas, ne se différencient pas les unes des autres de manière anarchique, mais en vertu de lois phonétiques tout à fait stables. C'est la grande découverte, c'est la découverte fondatrice de la grammaire comparée. Nous ne faisons plus que cela dans la grammaire comparée. C'est simplement affiner les lois phonétiques, bien entendu. Or, c'est cette découverte essentielle qui permettra justement d'éditer l'Avesta d'une manière proprement scientifique et de lui donner ses grands outils de référence. Une grammaire dans le Grundriss der iranischen Philologie et aussi un dictionnaire. Le Grundriss et l'édition de l'Avesta paraissent la même année, 1896. Le dictionnaire de Christian Bartholomé, le nom de Christian Bartholomé figure sur la bibliographie qui vous a été donnée, le dictionnaire de Christian Bartholomé paraît en 1904. Et vous voyez que le même Christian Bartholomé, dès l'année suivante, en 1905, publie une traduction des Gathas sous le titre « Die Gathas des Avesta, Zarathustras Verspredigten », paraît à Strasbourg en 1905. La conception que Bartholomé se fait de la personne de Zarathustra et du texte des Gathas est exprimée de manière plus explicite dans une petite conférence qu'il a tenue en 1918 à l'université de Heidelberg, mais qui ne paraîtra qu'en 1924 et qui s'intitule Zarathustras Leben und Lehre, la vie et l'enseignement de Zoroastre. Les titres sont significatifs. Le titre de cette conférence de Bartholomé signifie clairement deux choses. C'est un homme qui a vécu, dont nous pouvons connaître la vie, et c'est un homme qui a apporté une doctrine parfaitement précise, doctrine que l'on peut trouver dans les Gathas. La traduction des Gathas de Bartholomé est de loin antérieure. Elle est tout de même antérieure de 20 ans quasi à l'apparition de sa conférence. Alors, il faut savoir les choses aussi ici techniquement. La traduction de Bartholomé n'est pas une vraie traduction. Pas une vraie traduction, c'est un de nos ennuis. Bartholomé a simplement accolé les traductions qu'il faisait des passages gathiques dans le dictionnaire, lors de ses relevés lexicaux. Tel mot paraît dans tel ton texte, voilà ce que signifie le contexte. Alors, en relevant tous les mots des Gathas avec un copier-coller, si vous voulez, on aboutit à une traduction complète des Gathas. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais avouez que ce n'est pas une manière extrêmement rigoureuse de travailler sur une traduction. Ce n'est pas une manière rigoureuse. Il faut le savoir aussi. Or, cette traduction des Gathas de Bartholomé jouira, bien entendu, de tout le prestige que peut avoir le travail du grammairien, de l'homme, qui a produit ce dictionnaire merveilleux, d'ailleurs, qui est l'Altiranisches Wörterbuch, où on trouve aussi le vieux perse avec l'Avestique, mais qui a produit le seul dictionnaire de l'Avestique qui soit aujourd'hui encore disponible. Cette traduction sera, dans ses principes, expression d'une vie, Leben, et expression d'un enseignement, Lehre, sera accepté pendant environ 50 ans. Il y a des variantes, mais ce sont des variantes, ce sont des améliorations de détails, parfois importantes, oui, mais cela n'oblitère pas le message que Bartholomé attribue aux Gathas. Il faut signaler les interventions étalées dans le temps, dans les revues savantes de trois savants de l'université de Göttingen, Carl Friedrich Andreas, Jakob Wackernagel et Hermann Lommel, entre 1909 et 1938. Toutes les Gathas seront traduites par cette équipe. Il n'y a pas de vue d'ensemble, pour la raison pour laquelle je ne vous l'ai pas donné dans la bibliographie. Trois conférences sur les Gathas de l'Avesta d'Antoine Meillet en 1925. Il y a, mais malheureusement, des bribes assez rares de traduction des Gathas originales qui est due au grand comparatiste Antoine Meillet, en français celle-là. En 1938, Die Religionen des Alten Iran du suédois Henrik Samuel Nyberg contient aussi, de manière éparse, une traduction, mais complète, elle, des Gathas. Enfin, il y a la traduction, je vous l'ai donnée sur la bibliographie, la traduction de Jacques Duchesne-Guillemin, qui date de 1948 et qui est l'ultime version de la tradition qui remonte à Bartholomé. Il est donc possible pour vous d'accéder directement à la connaissance de cette tradition d'interprétation des gathas qui remonte à Bartholomée à travers le texte français de Duchesne d'Imain. Il a été réimprimé, je crois, au début des années 1980. Il faut savoir aussi que dans le Zoroastre de Jean Varenne, qui est un très mauvais livre pour la partie descriptive de Jean Varenne, la traduction des gathas qui s'y trouve est la traduction de 1948 de Duchesne d'Imain. Donc cette traduction n'est pas inaccessible en soi. Et elle se trouve naturellement en bibliothèque. Qu'est-ce que Bartholomée a modifié avec cet outil perfectionné qu'il possède maintenant et qui est la grammaire comparée pourvue de ses lois phonétiques? Bien, la question « où et quand » n'est pas très modifiée. La date ancienne est conservée, elle est un peu assagie. 1400, je vous ai dit, c'est exagéré, ça nous paraît aujourd'hui exagéré. Bartholomée va peut-être exagérer légèrement dans l'autre sens. Il parlera du 18e siècle. Le 8e siècle, et le « où », c'est en général l'Iran oriental. Cette date et la datation ancienne, j'appelle datation ancienne pour l'Iran, pour l'histoire iranienne, ce qui précède l'Empire Mède et Perse, hein, donc avant le VIe siècle, avant l'ère commune. Cette datation ancienne sera partagée par l'ensemble de ceux qui ont traduit les gathas. Alors que là, on a avancé des dates beaucoup plus récentes pour la Vesta, mais il est peut-être significatif avant de les discuter, que tous ceux qui se sont mesurés au texte des gathas ont accepté la datation ancienne, toujours. C'est effectivement extrêmement difficile de faire autrement, lorsque l'on voit cette langue par rapport au reste de la Vesta. Ce n'est pas un hasard. Si tous les philologues qui ont passé leur temps longuement sur le texte des gathas ont été convaincus de la réalité de la datation ancienne. Meillet est la seule exception. Mais c'est aussi celui qui a donné le moins de traductions de passages gathiques. Mais Nuberg et Duchesne d'Imain se montrent du point de vue chronologique agnostique. Mais malgré tout, ils penchent pour les datations anciennes. Alors, pour la nature du texte des gathas selon Bartholomée, là c'est très clair. Il a parlé dans sa brochure de l'éré d'enseignement, et plus précisément encore pour le genre littéraire plus précis que peuvent représenter les gathas, sa traduction le dit clairement. Vers predicten, les sermons en vers. Ce sont des sermons en vers. Ce sont des sermons adressés à un public que Zarathoustra chercherait à convaincre du bien fondé de la doctrine nouvelle qu'il prêcherait. Ça nous surprend un peu, mais là aussi c'est le protestantisme. Les protestants de cette époque, il leur arrivait effectivement de produire des sermons en vers. En vers. Donc ce n'est pas quelque chose de bizarre. C'était une pratique qui peut-être relevé dans la pratique protestante allemande de l'époque. Puisqu'il s'agit de sermons et d'un enseignement, les gathas sont bien une œuvre personnelle pour Bartholomée, une œuvre qui expose une doctrine. Mais cette doctrine est brouillée par l'ordonnancement du corpus gathique. Le corpus gathique, ce sont 17 poèmes, selon Bartholomée, 17 poèmes répartis en 5 ensembles. 17 poèmes répartis en 5 ensembles, mais la répartition, n'est-ce pas, le principe qui dicte la répartition, c'est la métrique. C'est-à-dire que chaque ensemble est composé des textes qui partagent la même structure métrique. Il n'y a donc, dans l'ordre de succession des gathas, aucune chronologie, cela ne représente pas la dynamique de la pensée d'un homme, nous ne savons pas. Ces textes ont été simplement versés selon un principe rhétorique dont on ne peut pas, dont la motivation nous échappe, bien sûr, hein, c'est de les classer selon leur appartenance métrique. Vous comprenez la tentation que cela va donner. Et elle est effectivement réalisée chez Duchesne d'Yvelines. Il est le seul des traducteurs des Gathas qui s'y soit essayé. C'était chercher à rétablir l'ordre chronologique. Hein, chercher à rétablir l'ordre chronologique. Duchesne d'Yvelines le fera. Donc il a cherché cette. Il s'est livré à cet exercice. On pouvait dans son livre constater ou bien penser ou bien fonder de cet essai. Nous allons dire quelques mots aussi plus tard, en avançant dans cet exposé sur l'histoire de nos disciplines. Alors, quel est cet enseignement? Quelle est cette doctrine nouvelle que Zarathoustra prêcherait? Oh, l'opinion de Bartholomé à cet égard ne change pas. C'est l'opinion de Haug. D'une certaine manière, Bartholomé a simplement mis à jour l'œuvre de Haug. Il l'a mise à jour dans sa rigueur linguistique, en faisant une traduction plus exacte, plus précise, etc. Mais sa vision des choses n'est pas modifiée. Les trois caractéristiques que Haug attribuait à la doctrine des Gathas sont maintenues. Les Gathas sont monothéistes, selon Bartholomé. Ahura Mazda est le seul dieu dont le nom soit prononcé. Bartholomé ne reconnaît plus l'attestation du nom du dieu Vayu, à juste titre. Il doute de la divinisation de cette entité abstraite qui est Srausha, le fait de tendre avec attention l'oreille. Il pense que ça reste un mot abstrait, que le processus de divinisation n'a pas été entamé. Et donc, l'isolement d'Ahura Mazda, selon Bartholomé, est beaucoup plus fort que chez Haug. À ceci près que dans la doctrine des Gathas, à côté d'Ahura Mazda, on trouve une sorte de panthéon de substitution de ceux que l'on appelle les Amshaspanta, les immortels bienfaisants, et qui sont six subordonnés à Ahura Mazda. Six Amshaspanta. Je vous donne le nom en entier, c'est assez. Les immortels, Amsha, immortels, Spanta, bienfaisants. Spanta est une traduction. Bienfaisant pour Spanta est une traduction un peu. Nous ne savons pas très bien ce que le mot veut dire. Bienfaisant est une approximation. Je la donne pour telle, mais je préfère le signaler. Donc, ces dieux ne sont pas des rivaux pour Ahura Mazda. Ce ne sont pas non plus des égaux. Hein. On a beaucoup discuté de leur nature. Bon, je ne laisserai tomber ce problème parce que avec le temps, il va s'éclaircir. En tout cas, il y a comme un panthéon subalterne et de substitution après la disparition des autres dieux traditionnels. Alors, l'eschatologie, c'est véritablement la clé d'interprétation des Gathas de Bartholomé. Si vous lisez le texte de Bartholomé, bon, vous avez la version du Duchesne d'Yvelines, vous le verrez. Hein. C'est un texte massivement eschatologique, vous le trouverez. Je vous ai dit, Haug a formulé la question de l'eschatologie, comme s'il ne l'avait pas trouvée dans le texte. Bartholomé l'a trouvée, peut-être, mais il faudra s'interroger sur la part d'illusion qu'il peut y avoir dans cet effet. Il l'a trouvé dans le vocabulaire. Un certain nombre de mots récurrents dans les Gathas qui n'ont pas d'équivalent en sanskrit védique ou des équivalents mal connus sont interprétés en fonction de l'eschatologie. Bon, je vais prendre un exemple, le mot yar. C'est un monosyllabe. Il n'a pas d'étymologie clairement immédiate. Il n'a pas d'équivalent sanskrit incontestable. Bon, il y a beaucoup de racines ya qui pourraient expliquer ce mot avec des sens extrêmement différents. Eh bien, Bartholomé le rattache à la sphère eschatologique en y voyant, c'est très fréquent chez lui, des crises, comme il dit dans le Wurterbourg, la crise, étant donné, la crise finale, hein, la crise finale, ou bien Wendepunkt, traduit-il pour traduire ces notions, le moment où les choses tournent, hein, le moment de la fin des temps. Donc il la trouve dans le vocabulaire, un certain nombre de mots. 6 ou 7. Il le trouve aussi dans le système verbal. Si vous lisez les Gathas de Bartholomé, celles du Duchesne d'Yvelines, vous aurez tout de suite le sentiment que vous lisez un texte rédigé au futur. Rédigé au futur. Cela, c'est en fonction d'une analyse du système verbal et d'une étrange forme verbale que le gathique, pas l'avesta récent, c'est un autre système, que le gathique, c'est un des traits d'ailleurs de son archaïsme particulier, partage avec le sanskrit du Rig Veda. C'est une forme verbale que l'on a appelée l'injonctif, que les premiers indianistes védisants ont appelé injonctif. Et c'est un très mauvais terme parce que ce n'est pas du tout ça, parce qu'on a l'impression que l'injonctif est une forme verbale qui sert à donner des ordres. Mais non, c'est oui, effectivement, il sert à donner des ordres négatifs. C'est-à-dire qu'un impératif, védique, on ne peut pas lui donner la négation. C'est pas possible. Il faut employer une autre forme verbale. Eh bien, la forme verbale que l'on emploie à ce moment-là, c'est celle que l'on définit comme injonctif. Mais l'injonctif a bien d'autres fonctions. Il n'est pas utilisé qu'en phrase négative. Et cette fonction, Bartholomé, ben, il va la diriger vers le futur. C'est donc en fonction d'une analyse particulière du système verbal que les Gathas de Bartholomé apparaissent comme un texte rédigé au futur. C'est aussi un fait qu'il faut constater. Alors, la troisième caractéristique, l'antiritualisme, il s'est aussi durci par rapport à Hauck, parce que la condamnation du soma est maintenant assortie de celle du sacrifice sanglant. Et cela depuis un article des Indo-Germanische Forschungen qui date de 1893 et qui est dû à un élève de Bartholomé, certain Paul Horn, Tieropfer im Avesta. Donc le sacrifice animal dans l'Avesta. Et Paul Horn voit dans une gâta particulière, un chapitre de la première gâta, le deuxième, une condamnation du sacrifice sanglant. Cette vision des choses est un des points importants de la tradition de Bartholomé dans l'interprétation des gâtas. Alors, il faut bien voir que quelque chose peut tout de même être variable selon les interprètes. Ben, c'est se pencher, c'est la raison, c'est le moteur de l'innovation doctrinale que représente Religata. On voit bien que chez Haug a une vision des choses très claire. Il le dit très clairement, les autres ne le disent plus, on n'est plus si naïf plus tard, n'est-ce pas? Haug l'est encore, c'est encore un homme des temps anciens. Ben, où on sent des relents préscientifiques par moment. Et il dira, voilà, Zarathoustra, c'est Moïse, dit-il. C'est un Moïse indépendant, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est l'illumination monothéiste, enfin, c'est la prise de conscience monothéiste. Remarquez-le, d'ailleurs, ça date de 1400 et sa localisation en Prytriane, à cet égard, ne sont pas indifférentes, enfin, puisqu'on situe Moïse exactement à la même époque. Alors, c'est dire, vous savez, entre quelqu'un qui travaille en Bactriane en même temps que quelqu'un qui travaille sur les bords du Nil, peut pas y avoir d'influence. Ce sont deux prises de conscience indépendantes et autonomes. Dans une certaine mesure, la datation est dictée par ce sentiment, nous le savons bien. Ici, Bartholomé, non. N'est-ce pas? D'ailleurs, à l'époque de Bartholomé, on discute déjà beaucoup des influences. Est-ce que le mazdéisme a influencé le judaïsme? Le judaïsme a-t-il influencé le mazdéisme? C'est une question qui est en débat à l'époque de Bartholomé. Bartholomé aussi verra autre chose. Pas le moteur de l'interprétation de la doctrine nouvelle, pour Bartholomé, c'est la découverte de l'éthique. Ça a des fondements. Ça peut se défendre. Ça a des fondements. Les gâtas sont hantés par un motif particulier. C'est ce qu'on appelait celui de la triade du comportement. La triade du comportement qui organise de manière télescopique le niveau de la pensée, c'est le manar, la pensée, la parole, vachar, et puis l'action, shiautana. Donc, triade du comportement, des manifestations de plus en plus évidentes des choses, hein, de la pensée de la pensée à l'action. Et cette triade tout entière doit avoir pour caractéristique d'être bonne. D'où un emploi littéralement obsédant du mot vohu, bon, vohu, bon. En le stylisant, c'est-à-dire en lui donnant ses degrés. meilleur, vario, ou bien très bon, superlatif, comparatif superlatif. C'est un terme littéralement ruminé dans les gathas, n'est-ce pas ? Et il est appliqué à la triade du comportement. On peut y dire l'éthique, bon, on peut. C'est l'interprétation de Bartholomé. Enfin, Meillet verra autre chose. Hein. Meillet, qui est socialisant et qui travaille dans l'entre-deux-guerres, il verra une exigence de justice sociale. Hein. En opposant, il voit un texte qui est un texte, au fond, une sorte de parti paysan, hein, qui revendique certains droits contre une noblesse, entre guillemets, que Meillet imagine plus ou moins sur le type féodal. Hein, ce que nous ne savons pas du tout, d'ailleurs. Hein, nous ne savons pas du tout. Mais ce sera pour Meillet l'explication, le fondement des gathas. Il a aussi des raisons qui ne sont pas mauvaises de penser, qui peuvent aussi être alléguées. Ces raisons-là, il y en a deux. C'est que partout dans les gathas, on parle de la vache. Ça n'a pas on n'a pas fini d'en parler, de cela. Partout, on parle de la vache. Comme si, d'ailleurs, l'on condamnait le fait de lui faire mal. Et d'autre part, on ne parle pas du tout, jamais, de l'activité guerrière. L'activité guerrière, c'est zéro. Hein. C'est une case absolument vide. Donc, alors, si vous juxtaposez les deux faits, hein, importance de la vache, absence de la guerre, bah, vous vous trouvez, semble-t-il, devant justement une opposition entre noblesse guerrière et paysannerie. Hein. C'est le fondement des remarques de Meillet. Alors, l'interprétation de Neuberg a été, comme vous savez, généralement très mal reçue, mais Neuberg se singularise à l'intérieur même de la tradition de Bartholomé, ben, en voyant le moteur du système gathique dans les techniques de l'extase. Dans les techniques de l'extase, il a une vision chamanique des choses, on découvre le chamanisme en 1938, et malheureusement, le recours de Neuberg est faible. Hein, il doit se base sur quelques termes obscurs qui ne sont pas, qui ne l'ont pas permis, au fond, de convaincre. 1948, la date, c'est la dernière manifestation de la tradition bartholoméenne, car à partir de 1952, paraît à Munich une petite revue extrêmement humble en 1952 qui s'appelle les Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, les études munichoises de linguistique. Et dès le second volume qui parut en 1952 aussi, on voit apparaître, ça ne cessera plus jusqu'en 1959, les articles de Helmut Humbach. C'est le troisième titre de votre petite bibliographie, l'édition et la traduction et le commentaire des gathas par Helmut Humbach paraîtront à Heidelberg en 1959. Mais chacun sait, avec les Münchener Studien, depuis 1952, ce que prépare Helmut Humbach. Alors, il faut peut-être que je fasse ici un peu de biographie. Parce que Humbach, l'an dernier, dans sa troisième, et je ne souhaite pas que ce soit la dernière, traduction des gathas, son dernier commentaire sur les gathas paru à Wiesbaden en 2010, et qui s'appelle Zarathustra and his antagonists, donc Zarathustra et ses antagonistes, a expliqué lui-même, et je crois que c'est une très bonne idée, parce que c'est une chose aussi qu'il convient de savoir pour mettre les choses dans une perspective correcte, dans quelles conditions, dans quel climat biographique son travail a été entamé. En 1945, donc après la fin de la guerre à l'université de Munich, Karl Hoffmann, le nom ne figure pas là, Karl Hoffmann, qui est un jeune indianiste né en 1915, et qui avait donc terminé ses études universitaires lorsque la guerre a éclaté. Donc sa carrière académique était entamée à la déclaration de guerre, a repris ses fonctions à l'université de Munich, et y a reçu un étudiant qui n'était pas tellement plus jeune que lui, né en 1921, Helmut Humbart, mais qui n'avait pu entamer ses études universitaires avant la guerre. Donc, il les entamait en 1945. Il y a donc chez ces deux hommes, qui sont restés toute leur vie très liés, chez ces deux hommes une véritable amitié. Mais ce sont des hommes, ce sont des contemporains du point de vue, du point de vue biologique, si je puis dire. Et ils ont. Karl Hoffmann avait un projet scientifique à la fin des années 40, et c'était de pourvoir l'Altindische Grammatik, la grande grammaire de vieil indien de Wackernagel, de la partie qui lui manquait, et qui était le verbe, le Das Verbum. La déclinaison, la phonétique, la composition nominale, la morphologie nominale. Tout cela est catalogué dans l'Altindische Grammatik à partir de la fin du XIXe siècle, mais fait défaut aujourd'hui encore, d'ailleurs, Karl Hoffmann n'a jamais mené à bien, lui fait défaut le Das Verbum, le verbe manque. Or, donc Karl Hoffmann, qui était indianiste de formation, il n'a jamais appris la vestique avec un maître, s'est rendu compte en préparant, en faisant ses premiers essais de préparation de cette grammaire du verbe, que la manière dont Bartholomé dans le Wörterbuch avait analysé le verbe était insoutenable, ne pouvait pas être acceptée, cela ne fonctionnait pas. La comparaison avec le sanskrit védique lui paraissait imposer une autre analyse. Et c'est ainsi qu'il a proposé à Humbart de faire une nouvelle analyse des gathas dans cette perspective. L'analyse des gathas de Helmut Humbart de 1959 est fondée, nous le savons maintenant grâce à son introduction, je le savais avant bien sûr, mais de manière privée, est fondée sur la nécessité de revoir en profondeur le système verbal des gathas par rapport à Bartholomé. Et c'est d'ailleurs l'acquis le plus fondamental du texte de Humbart. Alors, je ne sais pas si les gathas de 1959 sont encore, si vous avez la curiosité de voir ce qui a changé avec Helmut Humbart, il est très commode, et c'est un livre qui ne coûte pas très cher, qui est paru à Heidelberg en anglais, qui est « The Heritage of Zarathustra ». L'anglais est dû à Pala Nichaporia, qui est un parsi de Pennsylvanie, ami de Humbart, et qui donne une traduction un peu édulcorée, adusum delphini, dirais-je, des gathas, mais on peut en prendre comme ça connaissance de la manière dont Helmut Humbart a modifié la perspective de Bartholomé. Alors, ce qui change, Humbart aussi certainement, Humbart a aussi toujours, c'est trop tôt pour que cette perspective ait changé, il a évidemment la même conception de l'Avesta, livre sacré, des gathas, noyaux du livre sacré, mais on connaît mieux la transmission de ce livre. Depuis l'époque lointaine où les gathas ont pu être composés, vers l'an 1000 avant notre ère, c'est ce que dit Humbart, c'est une date très sage, je m'y tiens aussi, c'est la mienne, l'an 1000 avant notre ère, plus ou moins, peu avant, peu après, bon, pas important. On le sait mieux. On sait que l'Avesta, c'est d'abord une masse énorme de manuscrits. Masse énorme de manuscrits. Le plus ancien de ces manuscrits, il date de 1323. 1323 de notre ère. C'est récent. Alors, entre l'an 1000 avant notre ère et cette date fatidique de 1323, que s'est-il passé ? Eh bien, on le sait aujourd'hui, d'abord une période dont on ne sait rien du tout, et qui a été une période de transmission orale. L'Avesta n'a pas été mis par écrit. Il a été transmis oralement comme les textes indiens eux-mêmes. N'oublions pas que le premier manuscrit du Rig Veda indien que nous connaissons remonte au milieu du XVe siècle. C'est la même situation. Il y en a sans doute eu aussi avant. Pour l'Avesta, on le sait avec précision. Nous savons qu'il y avait un manuscrit, nous savons qu'il existait un manuscrit d'après les colophons des copistes aux alentours de 1025. 1025. On gagne 3 siècles. Ce n'est pas beaucoup. Alors, là, dans la vision de Hoffmann, il y a donc cette longue période de transmission orale, et puis les textes sont collectés et mis par écrit à l'époque sassanide, à l'époque des rois sassanides, donc dans le courant du premier millénaire de notre ère. Quand, à cette époque? Hoffmann donne là une date trop haute, 4e siècle. Nous savons aujourd'hui que paléographiquement, il est beaucoup plus vraisemblable que ce soit le 6e siècle. Donc, période de transmission orale depuis les origines jusqu'au 6e siècle de notre ère. Alors, dans la perspective de Hoffmann, c'est que les textes se perdent. Il n'a pas de bonne explication pour ça, mais il y a une perte massive des textes. Et ce qu'il reste, ce que nous avons aujourd'hui, ce sont les débris du livre. On a recollecté les débris, on les a remis ensemble et on a fait en quelque sorte un nouveau livre. C'est la conception de l'Avesta comme une sorte d'épave, hein, une épave faite de débris hasardeux et recollés en quelque sorte. Hein. Mais c'est la perspective de Hoffmann, et cette perspective, il l'exprimera avec beaucoup de précision, il résumera ses idées, après une carrière où il a beaucoup analysé la transmission de l'Avesta, en 1989, encore, c'est son dernier livre, 5 ou 6 ans avant sa mort, Der Sassanidische Archetypus de 1989, fera une description extrêmement précise de cette histoire de la transmission. Mais c'est celle qui, dès 1945, il inculque à ses élèves. C'est dans cette perspective que Humbart a travaillé. Alors, la nature du texte. Que sont les gathas à l'intérieur de l'Avesta? C'est là la révolution copernicienne de Humbart. Ce ne sont évidemment pas des sermons en vers. Ce sont, dès la première ligne de son livre, il le dit, Lieder, des hymnes. Ben oui, on s'y attendrait, n'est-ce pas? Puisque le seul document contemporain et apparenté que nous possédions, ce sont les hymnes védiques. Et puis, gatha ne veut-il pas dire chant, hein? Ce sont des hymnes comme ceux du Veda. Il y a un argument massif qui impose cela. Je crois que tout le monde a accepté cette perspective aujourd'hui. Les gathas sont des hymnes. On parle aux dieux. On parle au Dieu. Lorsque Hauck disait des entretiens avec son Dieu, qui parle? Mais c'est un homme qui parle au Dieu. Les gathas, c'est le discours qu'un homme tient au Dieu. Il ne parle pas à des disciples. Il ne reçoit pas l'enseignement. Le Dieu ne lui parle pas, ou exceptionnellement. Non, il parle au Dieu. C'est donc la perspective hymnique qui semble s'imposer. C'est l'argument massif de Humbart, et il est imparable. Oui. Les caractéristiques de la doctrine, là, Humbart cesse d'être révolutionnaire. Il ne sera pas révolutionnaire. Simplement, il se montrera un peu plus nuancé que Bartholomé. Il fera le monothéisme. Il fera remarquer que, Ahura Mazda est seul. La question des Ameshaspenta n'impressionne pas beaucoup. Mais Humbart fait tout de même remarquer qu'à deux reprises, le texte des gathas parle des dieux au pluriel. Ahurangho, c'est le mot Ahura, hein, le titre d'Ahura Mazda, et deux fois les Ahura. Les Ahura, deux fois. Bon, ça, ce qui lui fera considérer de manière expressive qu'il y a chez Zarathustra du Vor Zarathustrisches, pour le dire en allemand, hein, du pré-zoroastrien chez Zoroastre. Ce sera la formule de Humbart. Alors, l'eschatologie, elle est détruite. Elle est détruite par l'œuvre de Humbart. Tous les mots qui semblent se rapporter à la fin des temps sont expliqués autrement et avec la plus grande vraisemblance étymologique par la comparaison avec le sanskrit védique. Il n'existe plus aucun terme qui explicitement se réfère ni au destin individuel de l'âme, ni à la fin des temps. Elle est détruite. Le système verbal, c'était sa grande affaire au départ, eh bien le système verbal est revu dans une autre perspective d'interprétation des formes verbales injonctives. que El Mutumba va traduire en général par des présents. Va les traduire en général. Vous aurez donc, si vous lisez le texte de Humbard, l'impression que vous changez de temps, hein, par rapport à Bartholomé. Alors que Bartholomé fournit un texte rédigé au futur, Humbard donne un texte rédigé au présent. Et ça change tout. Hein, ça change tout. Seulement, Humbard est un personnage que j'aime beaucoup et que je connais bien. Mais il a une certaine insensibilité au fond des textes, n'est-ce pas ? Alors, après avoir s'être livré à ce travail de démolition d'un système, il va se poser une question finale. Il va dire, mais enfin, cette doctrine des Gathas, qui n'est pas si eschatologique que ça, qui n'est pas si anti-ritualiste que ça, parce que Humbard croit au sacrifice sanglant, il ne croit pas à la condamnation du Haouma non plus. En quoi est-elle nouvelle ? Et par quoi Zarathoustra a-t-il pu impressionner ses contemporains au point d'imposer une doctrine religieuse nouvelle ? Et alors, surprise, il va répondre, l'eschatologie. Explicitement, pas, dans son exposé liminaire, pas, il va mettre l'accent sur l'importance de l'eschatologie dans le texte gathique, alors que toute son analyse a contribué à l'en expulser. Il y a là une contradiction étonnante dans l'œuvre de Humbard. Ce qui a fait dire de lui par Karl Hoffmann que pour ce genre de problème textuel ou religieux aussi, il était, comme en allemand, ein Holzkind, un enfant de bois. Donc un naïf en quelque sorte, n'est-ce pas ? Mais c'est une chose qu'il faut, il faut constater cette chose-ci. Alors la réception de Humbard, bon, elle a été mitigée dans un premier temps, n'est-ce pas ? Chacun a senti qu'effectivement les Gathas étaient bel et bien des hymnes qu'un homme offrait à un dieu, ou à des dieux peut-être. Chacun a compris aussi que le système verbal avait été revu d'une manière qui devait paraître décisive. C'est vrai. Hein? Mais l'innovation a toujours peine à percer, vous savez. Alors, au fond, en quoi pouvait-on pervertir le message de Humbard ? En ceci, n'est-ce pas ? Ces hymnes, oui, ceux d'un homme qui s'adresse à un dieu, c'est son mode d'expression, certes. Mais malgré tout, au cœur de ces hymnes, il y a une lérée. Aurait dit Bartholomé, un enseignement nouveau. Donc on a évidemment cherché à réconcilier le genre hymnique avec le genre exposé doctrinal. Si vous lisez des spécialistes d'aujourd'hui, comme Mutins ou Martin Schwartz, c'est très clair. C'est très clair. Et lorsque je me souviens d'un jour qui n'est pas si lointain, il y a quelques années, dans un colloque où je venais de parler, je trouvais Martin Schwartz à côté de moi, et lorsque j'ai parlé d'hymne, de rituel pour les Gathas, Schwartz s'est récrié en disant « Oui, attention, il y a aussi le message. » Il fallait que, en dépit du genre hymnique, il faut que les Gathas conservent un message. Donc, la question n'est pas close. Nous sommes arrivés aujourd'hui, merci de votre attention à la révolution copernicienne sur les recherches gathiques qui a été la tentative de Helmut Humbard en 1959. L'histoire ne s'est bien sûr pas arrêtée là. D'une certaine manière, elle va se précipiter. Alors, je vous remercie et merci de votre attention.